écoutez Europe 1, il est 22h passé de 30 secondes. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Inamical, surprenant, contestable, la France est furieuse après l'annonce surprise hier soir de l'entrée des Pays-Bas au capital d'Air France KLM, qui ce soir enfonce le clou et annonce détenir désormais 14% du capital, c'est-à-dire presque autant que la France. De très nombreux radars dégradés ces derniers temps et des automobilistes qui du coup ne lèvent plus le pied, résultat la mortalité sur les routes repart à la hausse. Même cause, mêmes effets, après Paris et Lille aujourd'hui, la circulation différenciée sera mise en place demain à Lyon pour cause de pics de pollution. On reviendra aussi dans ce journal sur le témoignage explosif de Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump qui balance devant le Congrès. Xavier Yvon suit ça de très près depuis New York. Et puis le foot, Rennes qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après avoir battu Orléans 2-0. Autre match du jour, Lyon contre Caen. Ça donne quoi, Pascal Auclair ?
Ça donne qu'on commence tout juste la seconde période et 1-0 pour Lyon, un but inscrit à la 26e minute par Depay.
Pascal Auclair, que l'on retrouvera évidemment bien plus longuement dans le courant de ce journal pour faire un nouveau point sur cette rencontre de Coupe de France. Le printemps, vous l'avez compris, c'est terminé. Demain, retour d'une météo de saison avec des nuages sur les trois quarts ouest et même des averses sur le nord-ouest. Encore du soleil quand même sur les Pyrénées, dans le sud-est et sur les frontières de l'est. Quant aux températures, elles vont commencer à baisser, mais il fera encore 15 degrés quand même à Brest, à Paris, à Clermont-Ferrand, 19 à Strasbourg et Perpignan, 24 à Nîmes. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis je vous rappelle votre rendez-vous comme tous les soirs à 22h20 avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Olivier Cohn, le directeur général de Best Western France.
Europe 1.
D'abord, cette annonce qui passe très mal, celle de l'État néerlandais. C'était hier soir à la surprise générale. Il indiquait qu'il détenait désormais 12,6% du capital d'Air France KLM. Et ce soir, il en rajoute une couche et annonce détenir 14%, c'est-à-dire pratiquement le même niveau que l'État français qui en détient 14,3%. Le gouvernement néerlandais précise que sa participation est désormais valorisée à 744 millions d'euros. L'action Air France s'est effondrée à la bourse. Aujourd'hui, on y reviendra dans un instant avec Claire Lemaître de boursier.com. En tout cas, tout ça est très loin d'être anecdotique. Paris est vraiment très fâché et ça ne devrait pas s'arranger. Écoutez le président cet après-midi.
Le gouvernement français n'a pas été informé de cette décision et de sa mise en œuvre. J'en prends note. Il appartient maintenant au gouvernement néerlandais de clarifier ses intentions en cette affaire. Et c'est pourquoi le ministre de l'Économie et des Finances a invité son homologue néerlandais à venir à Paris pour pouvoir les expliquer. Ce qu'il importe, c'est que l'intérêt de la société soit préservé, que le droit des sociétés soit respecté et qu'en aucun cas des débats de politique intérieure ne soient importés autour de la table du conseil d'administration. Voilà. Et donc pour le reste, nous souhaitons un groupe Air France KLM qui soit fort et les clarifications qui sont attendues.
Emmanuel Macron au micro Europe 1 de Virginie Riva cet après-midi avant donc cette nouvelle annonce des Néerlandais qui annoncent détenir désormais 14% du capital d'Air France KLM. Après une baisse historique l'an dernier, le nombre de morts sur les routes est reparti à la hausse en janvier, plus 3,9%. Pour le gouvernement comme pour les responsables de la sécurité routière, l'une des raisons de cette hausse est claire. Emmanuel Barbe est le délégué interministériel à la sécurité routière.
En fait, on a eu une très forte baisse jusqu'au moment où les radars ont commencé à être dégradés ou détruits. Les vitesses réaugmentent sur les routes. Par exemple, en décembre, on a eu 4 fois plus de flashs. Alors, les flashs donnent souvent pas lieu à infraction parce que les radars sont bâchés, mais ils fonctionnent quand même. Et donc, c'est très simple, la sécurité routière. Finalement, c'est basique. Le risque, c'est la vitesse. Si la vitesse augmente, le risque augmente et le nombre des morts augmente. Voilà. Je dois dire que tous ceux qui ont pour activité de dégrader ou de détruire des radars doivent comprendre qu'ils ont des morts sur la conscience. Hein. Je le dis très tranquillement, à la suite d'ailleurs du ministre Castaner. J'espère que février ira mieux, mais j'ai pas beaucoup de raisons de le penser parce que, évidemment, réparer tous ces radars prend du temps.
Le constat d'Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière. Il était avec Pierre Herbulot d'Europe 1. Comme c'était le cas à Paris et à Lille aujourd'hui, les véhicules les plus polluants n'auront pas le droit de circuler demain à Lyon et dans sa périphérie. Le pic de pollution aux particules fines de ces derniers jours a poussé les autorités à interdire la circulation des véhicules qui ont les fameuses vignettes critères numéro 4 et numéro 5. Alors si les Parisiens et les Lyonnais ont déjà expérimenté ces mesures de restriction, c'était une première aujourd'hui pour les Lillois. Reportage du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot.
Il faudra encore du temps pour que ce dispositif de vignette critère imprime les esprits des automobilistes lillois. Pour preuve, ce conducteur qui, par ignorance ou nécessité, a pris la route ce matin avec une vignette numéro 4 sur le pare-brise et qui était pourtant interdit de circuler.
J'habite à 10 km du boulot. C'est un peu compliqué, donc j'avais beaucoup de routes à faire, différents rendez-vous à droite, à gauche, donc j'ai pris ma voiture perso. Sans ça, je pouvais pas travailler.
Et tant pis pour la pollution ?
C'est pas une question de tant pis pour la pollution, c'est que moi, je gagne pas un salaire qui me permet de changer de voiture tous les ans ou tous les deux ans.
Autre constat des forces de l'ordre. Le nombre important des automobilistes qui roulent tout simplement sans vignette.
Je savais qu'il fallait la vignette, mais il me semblait que c'était que sur la région parisienne. Mais comme c'est un véhicule récent, il me semblait que pour les véhicules récents, physiquement, ça se voit et qu'il ne fallait pas de vignette. Quoi.
Et le risque, c'était une amende de 68 euros, sauf pour ceux qui, avec la capitaine Philippe des CRS de Lille, acceptaient de se connecter en direct sur le site de la préfecture pour commander leur vignette critère.
Vous mettez sur votre moteur de recherche vignette critère, achat vignette critère, ça vous prendra 2 minutes, vous éditez un certificat et toute la journée, vous pourrez bouger. Alors que là, vous êtes passible d'une amende de 68 euros. Alors on joue à quoi ? 3,62 € d'un côté ou 68 euros de l'autre ?
En fin d'après-midi, sur 850 contrôles, 150 ont donné lieu à des verbalisations pour défaut de vignette. Fin de l'alerte pollution ce soir. Demain, tous les véhicules pourront rouler normalement sans restriction.
Le reportage de Lionel Gougelot à Lille, et on précise qu'à Paris et en Ile-de-France, comme à Lille, les mesures de restriction seront également levées demain. En clair, tout le monde pourra circuler, il n'y aura plus de limitation de vitesse. Le pic de l'épidémie de grippe franchi dans toutes les régions de France métropolitaine, épidémie qui a déjà fait un peu plus de 4000 décès, dont 86% chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Le nombre de consultations chez un généraliste comme le nombre de passages aux urgences est désormais en nette baisse. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, qui balance. À tout de suite.
Europe 1. Elle a eu un seul examinateur.
Oui, oui.
Pour toutes les épreuves.
Oui, oui.
Eh ben, ça a bien changé le bac.
Ah mais je parle pas du bac, je parle du contrôle technique de ma Clio.
Ah.
Avec Renault, le contrôle technique est simplifié. Avec un seul interlocuteur pour le diagnostic préparatoire, la visite et la contre-visite. Contrôle technique à 99 euros seulement, véhicule de remplacement inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h08, c'est la suite de votre journal sur Europe 1. Donald Trump est au Vietnam en ce moment pour rencontrer pour la deuxième fois son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Mais cette rencontre est éclipsée par un autre événement. L'audition ce soir devant le Congrès américain de l'ancien homme de confiance, l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen. Bonsoir Xavier Yvon.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En direct, Xavier, vous suivez cette audition qui se poursuit et au cours de laquelle Michael Cohen dresse un portrait vraiment au vitriol du président américain.
Ah ça oui, les millions d'Américains qui sont comme moi devant leur télé depuis maintenant plus de 6 heures sont en train d'assister à un moment assez extraordinaire dans la vie politique américaine. Michael Cohen a donné le ton en commençant par cette phrase spectaculaire.
J'ai honte d'avoir choisi de participer à masquer les actes illicites de M. Trump plutôt que d'écouter ma conscience. J'ai honte parce que je sais ce qu'est M. Trump. Il est un raciste, il est un escroc et il est un tricheur.
Alors raciste, Michael Cohen raconte comment Donald Trump se moque des Noirs en privé. Tricheur, Michael Cohen raconte comment Donald Trump ment sur ses finances, sur ses notes scolaires, sur son service militaire. Escroc, Michael Cohen montre un chèque signé de la main même de Donald Trump. C'est un remboursement pour avoir acheté le silence de ses maîtresses pendant la campagne, et ça c'est une violation de la loi électorale. Selon son ancien homme de confiance, le président américain ment aussi quand il dit qu'il ne savait pas que WikiLeaks allait déballer les emails d'Hillary Clinton. Il ment également quand il dit qu'il avait arrêté un projet immobilier à Moscou pendant la campagne. Donald Trump me traite de balance, mais c'est parce qu'il se comporte comme un mafieux, dit Michael Cohen. On assiste en fait au grand déballage d'un repenti du trumpisme qui va aller en prison pour ses différentes fraudes. Et c'est d'ailleurs sur sa crédibilité que les élus républicains sont en train d'attaquer Michael Cohen dans leurs questions pour défendre Donald Trump.
Eh bien, merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct de New York. Le Parlement britannique a voté ce soir pour la nouvelle stratégie de Theresa May qui pourrait impliquer un report du Brexit. Le divorce est théoriquement prévu pour le 29 mars. Un dramatique accident de de train aujourd'hui au Caire, en Égypte. Au moins 20 personnes ont été tuées. Un train à vive allure s'est encastré dans un mur en bout de quai à la gare centrale très fréquentée. Accident qui a entraîné la démission du ministre des Transports. Alors que les manifestations se succèdent en Algérie contre un cinquième mandat du président Bouteflika, le journal La Tribune de Genève assure aujourd'hui que le président algérien est soigné en Suisse depuis dimanche. Abdelaziz Bouteflika, victime d'un AVC en 2013, qui l'a considérablement affaibli.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1. Un homme d'une soixantaine d'années interpellé ce matin dans la gare de Versailles-Rive-Gauche en région parisienne. Il est soupçonné d'être l'auteur de plusieurs inscriptions antisémites dans le RERC. Il a été arrêté en flagrant délit, Pierre de Cossette.
Oui, son périple a pris fin à 6h ce matin dans une gare de Versailles, cueilli par des agents de la sûreté de la SNCF en flagrant délit puisqu'il était en train d'inscrire un tag antisémite avec un marqueur. Les agents de la SNCF avaient passé en revue plusieurs dizaines d'heures de vidéosurveillance pour mettre un visage sur ce suspect, alors que les inscriptions antisémites fleurissaient depuis quelques jours sur la ligne C du RER, des croix gammées mais aussi des croix celtes ou les mots « Juden raus », les juifs dehors en allemand. Ça, c'est une inscription qu'on avait retrouvée en gare du musée d'Orsay dans Paris. La SNCF a porté plainte et pas plus tard qu'hier, un passager est tombé dans sa rame sur 10 croix gammées, des insignes nazis de 30 cm environ. Ce matin, à peine interpellé, le suspect a reconnu les faits. C'est un homme de 65 ans qui aurait même avoué en tout une cinquantaine d'inscriptions dans les trains, mais aussi dans les gares.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. L'enquête pour viol contre l'entraîneur d'athlétisme Giscard Samba classée sans suite. Une athlète avait porté plainte contre lui. Giscard Samba avait pendant un certain temps même été suspendu par la fédération. Mais la justice a donc estimé que l'infraction était insuffisamment caractérisée et que l'absence de consentement n'avait pas pu être prouvée. La plaignante entend désormais porter plainte avec constitution de partie civile pour obtenir la reprise des investigations. Et puis la Coupe de France de foot avec deux matchs ce soir. Tout à l'heure, Rennes s'est qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire contre Orléans. 2-0, les Bretons en forme à 8 jours de leur choc contre Arsenal en Ligue Europa. Et puis, autre rencontre depuis 21h. Maintenant, l'Olympique lyonnais qui affronte Caen, Pascal Auclair. Et une première mi-temps à l'avantage des Lyonnais. Ça donne quoi dans la deuxième?
Oui, et bien ça donne que les Lyonnais sont pour l'instant en position de force pour accéder aux demi-finales. Les Lyonnais qui mènent 2-0. Alors que l'on joue depuis 56 minutes, l'Olympique lyonnais qui a ouvert le score à la 26e minute avec à l'origine Depay. Depay qui se réhabilite un petit peu aux yeux de ses supporters. Centre de Depay et tête au premier poteau de Denayer qui devance le gardien. 1-0 donc à la 26e minute et 2-0 à la 50e avec un contre-éclair mené par Cornet. Il est parti à la limite du hors-jeu, l'attaquant lyonnais. Il a filé au but, il a trompé Zelazny d'une petite pichenette. 2-0 donc, alors qu'il reste une grosse demi-heure à jouer. Ça sent bon la qualification pour l'Olympique lyonnais.
Merci beaucoup Pascal Auclair, que l'on retrouvera d'ici 22h30 pour faire un nouveau point sur cette rencontre. On est à 100 jours, tout pile, du début de la Coupe du Monde de foot féminine qui se déroulera en France. Le président de la FIFA promet qu'elle fera changer la façon de voir le foot féminin dans le monde. Ce sera spectaculaire, dit-il. On attend 1 milliard de téléspectateurs, 1,3 million de personnes dans les stades. Coup d'envoi le 7 juin. Et puis un mot encore pour vous dire que le FC Nantes a saisi aujourd'hui la FIFA pour obtenir de Cardiff le paiement du transfert d'Emiliano Sala. 17 millions d'euros. Le club gallois avait décidé, après la disparition de l'attaquant, de ne pas honorer un premier versement de près d'un tiers de cette somme. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Elena, l'été en février, c'est donc terminé.
Oui Isabelle, et c'est sans doute mieux comme ça. Qu'auraient écrit nos poètes si on n'avait pas de saison, hein? Bon, alors on va pouvoir surfer sur le souvenir de ces belles journées. Il n'en restera plus grand-chose demain sur les trois quarts ouest sous les nuages et quelques averses au nord de la Loire. Elles seront plus fréquentes l'après-midi au nord de la Seine avec un orage possible, un peu plus d'éclaircies sur la Bretagne, d'autres sur le sud-ouest et toujours un franc et beau soleil sur les Pyrénées, le sud-est et les frontières de l'est. Les températures, elles vont baisser de 5 à 8 degrés en moyenne. Il faut dire qu'aujourd'hui était la journée de tous les record, 28 degrés près des Pyrénées, 22 à Dijon comme à Charleville-Mézières, deux villes qui n'avaient jamais dépassé la barre des 20 degrés en février. Alors demain, on aura au maximum 13 degrés à Charleville-Mézières, 14 au Havre et Lille, 15 à Brest, à Paris, à Angers, Auxerre ou encore à Clermont-Ferrand, 16 degrés pour Montluçon et Besançon, 17 à Blois, Bordeaux et Toulouse, 18 pour Mont-de-Marsan et Lyon, 19 à Strasbourg et Perpignan, 21 à 23 degrés près de la Méditerranée, 24 pour Nîmes. Températures qui vont progressivement baisser ces prochains jours. Le vent, la pluie, la neige vont se rappeler à notre bon souvenir en fin de semaine et la semaine prochaine avec en prime les fameux giboulées de mars. Une saison délicieuse, vous allez voir.
Et voilà, la météo signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Olivier Cohn, le directeur général de Best Western France. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h16, on s'intéresse à la bourse avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui a hésité ce soir.
Oui, c'est finalement du rouge pour le Dow Jones. Il perd 0,28%, 25 985 points. Le Nasdaq, lui, grappille 0,07%, 7 555 points. Alors, on a pas mal de tensions géopolitiques. Ce soir, des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Les investisseurs ont aussi suivi la rencontre de Donald Trump et du président nord-coréen. Alors là, c'est positif. Trump a parlé d'un très bon dialogue. Et puis, le représentant américain au commerce a jeté un froid dans le dossier toujours très compliqué des droits de douane avec la Chine. Il estime que le plus difficile ne sera sans doute pas de conclure un accord avec Pékin, mais de le faire respecter.
Le pétrole, lui, a terminé en forte hausse.
Oui, les cours ont été propulsés par l'Arabie Saoudite. Selon elle, l'OPEP et ses alliés n'ont pas l'intention de céder à la pression de Donald Trump en faisant baisser le prix du baril. Du coup, le WTI bondit de 2,6%. On est à $57 et les géants du pétrole en profitent. ExxonMobil gagne par exemple 1%. Le distributeur d'électronique grand public Best Buy grimpe de 14%. Les ventes pendant les fêtes ont été solides. Les investisseurs sont séduits. Et puis côté devise, l'euro recule légèrement face au dollar. Il s'échange contre 1,1370.
Le CAC 40 perd du terrain ce soir. Et puis Claire, l'actualité, on en parlait tout à l'heure, a été dominée par le dossier Air France KLM.
Oui, les opérateurs préfèrent jouer la prudence après 5 séances de hausse. Le CAC 7, 0,26%, 5 225 points. Beaucoup de tensions donc autour d'Air France KLM. Le titre dégringole de près de 12%. Conséquence de l'annonce surprise de l'entrée de l'État néerlandais au capital du groupe. Un raid qui ravive les craintes de tension entre les branches françaises et néerlandaises de la compagnie. Et ce soir, les analystes craignent que tout cela sape les efforts du nouveau patron Ben Smith. Sanctions aussi pour Solvay, moins 5,2%. Le chimiste table sur une progression modérée de son bénéfice d'exploitation attendu en 2019.
Et le laboratoire Biomérieux s'en tire nettement mieux.
Oui, les doutes qui dominaient depuis quelques mois se dissipent. Le titre Biomérieux monte de 6,5% alors que ses comptes 2018 ont dépassé les attentes du consensus. Ailleurs, en Europe, c'est le rouge qui domine sur les marchés avec un recul de 0,5% pour Francfort et de 0,6% pour Londres. Madrid recule de 0,2%, Bruxelles moins 0,2% également, Amsterdam moins 0,5%. Milan résiste tout de même en hausse de 0,2% et puis le CAC perd 0,3%, 5 225 points.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de boursier.com. Et à 22h19, c'est l'heure de retrouver l'interview éco d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le directeur général de Best Western France.
Bonsoir Olivier Cohn.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes directeur général de Best Western France. Best Western, c'est 4200 hôtels affiliés dans plus de 100 pays. Il y en a environ 300 en France. Il y en a beaucoup qui ouvrent maintenant chaque année en France. On va justement commencer par la France. On va venir dans un instant sur une acquisition que vous avez faite d'un groupe positionné sur l'haut de gamme qui s'appelle World Hotel. Commençons donc par la France. Tout simplement, on est en période de vacances en ce moment, notamment pour les Parisiens. Comment ça va? Il y a du monde?
Il y a du monde. La saison des vacances commence plutôt bien. Le début de l'année était un petit peu lent à démarrer. On a quelques impacts des gilets jaunes notamment. Et là, avec les vacances, on sent qu'il y a une volonté d'aller respirer, d'aller trouver le grand air sur différents endroits, dans les montagnes, mais également sur les bords de mer.
Le beau temps y a beaucoup contribué. J'imagine que beaucoup. Le week-end dernier, il y a eu des réservations de dernière minute.
Oui, beaucoup. C'est vrai qu'on a une activité qui peut être très cyclique en fonction de la météo. Et c'est vrai que ces dernières semaines ont été particulièrement favorables.
C'est l'une des premières choses que vous faites le matin, de regarder le temps qu'il va faire dans les jours à venir pour savoir s'il y aura du monde, notamment dans vos hôtels côtiers.
C'est quelque chose qu'on regarde de manière très proche. Hein, et c'est vrai que moi, j'ai une petite anecdote. Hein, c'est un de nos hôteliers qui nous disait très récemment que, encore une époque récente, son chiffre d'affaires était fait par Evelyne Delia le dimanche soir. Donc, si elle annonçait du beau temps pour la semaine, c'était bien parti. Si elle annonçait des nuages et de la pluie, les annulations allaient pleuvoir.
Alors je crois qu'il va faire un peu moins beau à compter de demain, notamment sur Paris. Je crois que le sud va encore profiter de conditions assez sympathiques. Vous disiez impacté en partie par les gilets jaunes. De quelle manière est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu du chiffrage ou du pourcentage de baisse que ça a pu générer, notamment au niveau des réservations ?
Alors c'est toujours très compliqué de calculer un chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé, mais on a essayé de se prêter au jeu sur le mois de décembre, puisqu'on avait une bonne visibilité de ce qu'allait être le mois de décembre 2018 avec l'avance qu'on pouvait avoir en portefeuille. Au final, on estime que le réseau a perdu à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le mois de décembre.
Oui, c'est donc pas neutre,
ce sont des montants qui ne sont pas neutres. Oui.
Et vous le voyez aussi au niveau donc des réservations, parce que vous êtes un groupe mondial, vous êtes un groupe américain, je crois que vous êtes basé à Phoenix, en Arizona, aux US. Vous avez eu moins de touristes étrangers, vous avez eu des annulations aussi à cause de cette crise des gilets jaunes ?
Il y a eu des annulations, notamment sur les marchés, on va dire, les plus craintifs. Hein. On se rend compte d'année en année qu'en fonction de la conjoncture économique, sociale, il y a des marchés plus frileux que les autres. Les Américains, les Chinois, les Japonais sont des marchés beaucoup plus frileux à ce qui peut se passer en France. Et c'est typiquement sur ces marchés-là qu'on peut voir les plus gros reculs. Oui.
La France, qui est un marché malgré tout très important pour le groupe Best Western, vous êtes même en train de tester une nouvelle marque. Je crois que c'est une première mondiale. Vous avez ouvert une enseigne qui s'appelle Aiden, qui est une enseigne plutôt haut de gamme, un 4 étoiles à Marny-les-Compiègne, c'est dans l'Oise. Déjà, pourquoi à un moment on se dit tiens, on lance cette nouvelle marque et on teste en France ?
Alors, on voit que l'hôtellerie évolue de manière très très rapide. Hein. On a aujourd'hui une hôtellerie à plusieurs dimensions. On a une hôtellerie très traditionnelle, avec des hôtels tels qu'on les connaît depuis des années. Et puis on voit émerger une nouvelle hôtellerie qu'on appelle un peu lifestyle ou boutique hôtel, avec finalement la part qui est faite beaucoup plus sur des parties communes plus élargies, plus agréables, avec un parti pris de décoration plus marqué.
Et c'est donc, ça aujourd'hui la tendance.
Et c'est ça la tendance qu'on voit sur beaucoup de constructions, sur aussi les attentes des consommateurs. Donc on voulait avoir une marque dédiée à cette typologie d'établissement pour que les clients voient bien ce qu'ils pouvaient attendre de ce genre d'hôtel. Donc on a lancé deux marques, Aiden et Sadi, une sur milieu de gamme supérieur, une sur le haut de gamme. Et donc on a la chance d'avoir le deuxième Aiden au monde chez Best Western en France. On s'est fait dépasser par nos amis cohérents.
Ah, je crois que c'était la France qui devait ouvrir en premier.
Eh oui, on espérait, mais nos amis coréens.
Les temps de construction ont été plus lents chez nous et du coup, ils ont réussi à ouvrir avant vous.
C'est ça, exactement.
Mais comment justement on décide comme ça au niveau mondial de se dire, bah tiens, on va tester ce marché. Donc là, vous dites la Corée, la France. C'est le hasard des acquisitions ou c'est vraiment une stratégie réfléchie de se dire, bon, bah voilà, la France, première destination touristique au monde, c'est normal de tester là.
Non, c'est aussi en fonction des opportunités. En fonction des investisseurs avec lesquels on travaille, des hôteliers, des constructions, on essaye toujours de trouver la marque qui correspond au produit et pas de dériver un peu le produit vers la marque que l'on peut avoir. Donc on essaye véritablement de s'assurer que la marque qu'on pose sur un hôtel correspond à celle qui marchera le mieux pour l'hôtel en termes de revenus, en termes de prix moyen, etc. Alors donc là, l'opportunité était vraiment intéressante.
Vous êtes sur tous les segments, hein, le segment économique, mais également de plus en plus sur le segment haut de gamme, c'est ça aussi qui marche le plus. Vous venez de racheter une franchise, comme on dit, qui s'appelle World Hotel, hein, qui est un groupe qui rassemblait pas mal d'hôtels très haut de gamme, plutôt indépendants. C'est capital d'aller comme ça sur le très haut de gamme. On a vu que le groupe Accor, qui est l'un des géants du monde de l'hôtellerie, fait exactement le même pari.
C'est capital de pouvoir offrir à nos clients des établissements sur tous les segments. Et c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup développé de marques chez Best Western et on est capable aujourd'hui d'aller du marché économique jusqu'au haut de gamme. Et il nous manquait donc le dernier segment qui était le haut de gamme supérieur, voire le luxe. Et c'est vrai que la marque Best Western n'avait pas velléité à pouvoir monter naturellement sur ces marchés. Et donc on s'est tourné sur l'acquisition de World Hotel, qui est un réseau de 300 établissements répartis dans le monde entier, qui justement évolue sur ce segment-là et sur lequel il y avait une complémentarité très intéressante pour nous.
Une complémentarité intéressante, mais parce que c'est quand même le segment qui progresse le plus vite. L'ultra-luxe, c'est là où on les meilleures marges ? Est-ce que c'est très compétitif sur l'économie qui se porte plutôt bien avec des marques très connues en France ? Mais on a l'impression que tous les groupes hôteliers se renforcent fortement sur le très 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 haut de gamme, parce que c'est le cas là des hôtels World Hotel.
Alors, il peut y avoir des marges confortables sur ce marché-là, mais encore une fois, c'est aussi des marchés qui sont très sensibles aux conditions économiques, très sensibles aux conditions sociales. Donc, ce sont des marchés qui peuvent être fluctuer beaucoup plus fortement que d'autres. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une largeur. Parce qu'on voit, en fait, ce qui se passe, c'est que les clients ne sont pas fidèles à un segment. On n'a pas des clients qui passent toute leur vie dans des hôtels haut de gamme ou toute leur vie dans tout leur séjour dans des hôtels économiques. On voit des gens qui fluctuent en fonction de l'opportunité, du type de voyage. Est-ce qu'ils vont en week-end avec leur épouse? Est-ce qu'ils se déplacent avec leurs enfants? Est-ce qu'ils sont en voyage corporate? Bref, pour l'ensemble des besoins des clients, on va passer d'un établissement à un autre, d'une gamme à une autre. Et donc, le fait d'avoir cette largeur de gamme nous permet de fidéliser les clients et s'assurer qu'ils restent plutôt avec nous qu'avec nos concurrents.
Olivier Cohn, je rappelle que vous êtes le directeur général de Best Western en France. En préparant cette interview, je me disais en revanche, quelle est l'utilité d'avoir autant de marques différentes à Eden? Pourquoi ne pas ouvrir tout simplement sous la marque Best Western?
Ben c'est ce qu'on était il y a encore une dizaine d'années. On n'avait qu'une seule marque.
Je crois que vous en avez 17 ou 12, je ne sais plus.
On en a 13 aujourd'hui.
C'est ça. Aujourd'hui.
Parce qu'en fait, le marché s'est vraiment segmenté. Parce que les besoins des consommateurs sont très différents. Et c'est très compliqué en tant que marque d'expliquer à un consommateur que sur le même nom, il va trouver des produits très différents avec des tarifs qui peuvent être différents. Aujourd'hui, si on regarde le réseau et l'ensemble de nos marques, on va de tarifs qui vont de 55 euros la nuit jusqu'à 250, 270 euros. Comment expliquer à un client avec un même nom la différence de prix qu'il peut y avoir? Et donc, on a spécialisé, on a segmenté parce que les clients peuvent être différents, les besoins sont différents et les tarifs sont différents.
Eh bien, merci beaucoup d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Olivier Cohn, qui est donc le directeur général de Best Western France, était notre invité. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous, Emmanuel Duteil. Et en effet, on vous dit à demain. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? Et voici ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Une photo de Donald Trump à la une de Libération, accompagnée de ce titre « Un raciste, un escroc, un tricheur ». On en parlait tout à l'heure dans le journal avec Xavier Yvon, l'ancien avocat de Donald Trump, a dressé aujourd'hui un portrait ravageur du président américain lors de son audition à la Chambre des représentants. Air France KLM, la grosse colère de Bercy. Dans le journal Les Échos, Daniel Fortin revient sur le coup de force des Pays-Bas, monté à la surprise générale dans le capital de la compagnie. Les mots entendus aujourd'hui à Bercy, écrit-il, laissent mal augurer de la suite du partenariat entre les deux actionnaires. D'autant que le gouvernement français n'exclut pas de se renforcer à son tour dans le capital du groupe, ce qui pourrait dégénérer en bataille boursière. Bonne ambiance, conclut le journaliste qui, une fois de plus, en dit long sur l'état de l'Union européenne. Dans le Figaro, Gaëtan de Capelle s'interroge. D'ordinaire plutôt discret dans la vie des affaires, l'État néerlandais n'est pas moins chatouilleux qu'un autre lorsque ses intérêts sont en jeu. Faut-il que la moutarde lui soit montée au nez pour accumuler subrepticement 14% du capital d'Air France KLM et entamer un bras de fer public avec Paris? De telles manières sont rarissimes entre partenaires européens habitués à régler leurs différends en coulisses. Nationalisme et business, le couple infernal, titre pour sa part le journal L'Opinion. Renault Nissan, Telecom Italia, Vivendi, Siemens, Alstom et maintenant Air France, KLM. Au nom de leurs intérêts stratégiques, les États interfèrent de plus en plus dans la vie des affaires. Et puis personnellement, j'ai craqué pour la une du Petit Quotidien demain qui affiche la photo d'une tortue géante, une espèce qu'on croyait disparue et qui vient d'être découverte. Elle a été observée sur une île des Galapagos dans l'océan Pacifique. On n'en avait plus vu depuis plus de 100 ans. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de la presse que vous retrouvez dans vos kiosques demain matin. Et on va faire un nouveau détour tout de suite par Lyon. Pascal Auclair, quart de finale de la Coupe de France. L'OL qui affronte Caen et les demi-finales qui se profilent pour Lyon.
Ah oui, exact. L'Olympique Lyonnais est désormais à 17 minutes et des poussières d'une demi-finale de Coupe de France face au Stade Malherbe de Caen. L'OL mène toujours donc 2-0 dans une partie pratiquement à sens unique depuis le coup d'envoi. Les Rodaniens, on va le rappeler, ont concrétisé une première fois leur domination à la 26e minute sur un centre au cordeau de Memphis Depay et une tête de Denayer au premier poteau qui a devancé le gardien de Caen, alors que là il y a encore une très grosse occasion pour l'Olympique Lyonnais. Il y a un arrêt du gardien normand et donc je vous disais, ce but inscrit à la 26e minute par Denayer a été suivi d'un deuxième but à la 50e minute. Cette fois-ci c'est un contre-éclair mené par Cornet, parti à la limite du hors-jeu. Il a filé au but Cornet et il est venu tromper Zelazny d'une petite pichenette, 2-0 donc. Et depuis, eh bien, la domination lyonnaise est toujours aussi intense et les Canets sont pratiquement obligés de défendre tout le temps. Très peu d'occasions donc pour les Normands qui s'acheminent vers une élimination. Et donc, la qualification de l'Olympique lyonnais, ce sera dans un gros quart d'heure.
Merci beaucoup Pascal Auclair en direct de Lyon. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission à vous Sophie.
Merci, à tout à l'heure.